Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission où nous parlons de Human Rights Watch et de son antenne à Paris. Human Rights Watch, c'est une organisation internationale, une ONG qui défend les droits humains et qui a été créée en 1988 aux États-Unis, où chaque année, 275 collaborateurs chercheurs rédigent des rapports pour mieux comprendre la situation des droits dans plus de 80 pays. Nous parlons aujourd'hui de son bureau parisien. Avec Jean-Louis Servan-Schreiber, merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes président du comité de soutien de Human Rights Watch en France. Nous célébrons presque 2 ans et demi de travaux, d'activités. Vous êtes également membre du comité international, vous allez nous parler de vos activités. Est-ce qu'en 2 ans, on peut déjà parler d'accomplissement? Est-ce que vous pouvez même parler de Paris gagné pour la question des droits humains, qui est quand même fondamentale et difficile?
La réponse est évidemment non. Parce que on ne peut pas imaginer un jour que le pari de faire triompher les droits humains sur la planète puisse être gagné de manière définitive. Je pense que, compte tenu de la nature humaine, chaque génération doit réapprendre les fondamentaux et les valeurs essentielles. Et donc, je pense que ce sera pour nous et pour ceux qui nous succéderont une bataille permanente. Mais comme la bataille pour les valeurs, pour la connaissance, pour la liberté, jamais la vigilance ne doit se mettre en sommeil d'une manière ou d'une autre. Bon, alors donc il y a de quoi faire.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment l'organisation fonctionne? Quel est le mandat de Human Rights Watch en France? Quelles sont les divisions?
Il n'y a pas qu'en France, je sais pas, la France est un des pôles maintenant. Mais pour mieux comprendre ce que fait Human Rights Watch, il faut se dire que c'est une agence d'information. C'est un peu comme l'AFP. Il y a des correspondants dans le monde entier, sauf que nous en avons plus que la plupart des grands médias, plus que Le Monde, plus que le New York Times. Nous couvrons 80 pays avec nos différents correspondants, car dans 80 pays au moins, et peut-être encore d'autres, il y a chaque jour ou des exactions, ou des atteintes aux droits de l'homme, ou des mises en danger de ces valeurs qui nous paraissent absolument essentielles. Et nous, nous sommes là pour faire de l'information. C'est-à-dire que tous les jours, dès qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est ramené à l'organisation centrale qui diffuse l'information sur le site, qui fait des communiqués, qui crée des rapports. Nous en publions près d'une centaine par an sur différents sujets dans le monde entier. Et nous fournissons là une matière d'information sur les atteintes aux droits de l'homme, qui est un rôle essentiel car nous sommes très peu nombreux à le faire et les besoins existent.
Est-ce que concrètement vous allez voir les personnalités publiques, les autorités publiques en France? Est-ce qu'il y a un débat qui s'instaure?
Alors ça c'est la deuxième partie. D'abord nous rassemblons l'information et nous la diffusons. Mmh. Et ensuite nous ne nous en contentons évidemment pas, nous faisons du lobbying. C'est-à-dire que nous essayons d'exercer notre influence sur ceux qui prennent des décisions, en particulier au niveau gouvernemental ou diplomatique, pour les confronter à ce qui nous paraît essentiel et souvent, ça n'est pas forcément dans le mode de la confrontation, souvent travailler avec eux pour progresser. Une fois que le bureau de Paris a existé, son directeur, qui s'appelle Jean-Marie Fardeau et qui est lui, en quelque sorte, on pourrait appeler à un niveau de rédaction en chef, est là pour aller en permanence, chaque jour, voir les décideurs en France, que ce soit à l'Élysée, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit quand il y en avait un secrétariat d'État aux droits de l'homme, il n'y en a plus, mais que ce soit aussi dans tous les médias, il est interrogé sur les médias parce que nous leur expliquons ce qui est en train de se passer et nous leur demandons d'agir pour essayer d'influencer ceux qui sont les auteurs de ces atteintes, si vous voulez. Et la France, pour cela, est essentielle parce que la France est un pays d'influence, est un pays qui a une diplomatie, est un pays qui rayonne en particulier, évidemment, sur l'ensemble de l'Afrique et aussi en partie sur le Moyen-Orient et qui peut avoir aussi des choses à dire ailleurs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Human Rights Watch a voulu se développer en France, c'est parce qu'il faut que les décideurs français, les médias français soient davantage éclairés. Alors, au bout de 2 ans d'action, on peut dire qu'effectivement, nous avons obtenu un certain nombre de résultats. Et d'ailleurs, la présence de Human Rights Watch ou de ses initiales HRW On la constate en lisant la presse ou en écoutant les médias audiovisuels. Maintenant, cette référence est beaucoup plus fréquente. Donc, c'était notre but aussi.
Je signale au passage donc le site web menacesurlesdroitshumains.org où vous pouvez retrouver de nombreux rapports et l'activité de Human Rights Watch en France et dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle en tant que président du comité de soutien? Quel est votre rôle? Avec qui vous travaillez? Quels sont les membres de ce comité qui est prestigieux?
Nous avons des membres du comité qui, eux, sont ceux qui, moralement en particulier, nous aident et souvent pour beaucoup d'entre eux aussi matériellement, parce que nous ne vivons que de soutien financier. Bien entendu, nous ne pouvons recevoir aucun argent qui vienne d'un gouvernement quelconque sous aucune forme de ce genre. Nous ne pouvons recevoir d'argent de personne qui fait, par exemple, qui a des activités dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Prenons un exemple comme Total, qui est une très grande entreprise d'extraction et de diffusion de pétrole. Eh bien, ils sont en Birmanie, ils sont dans un certain nombre de pays africains. Nous ne pouvons pas non plus être sous l'influence de quelqu'un qui est dans cette situation-là. Donc, nous avons à recueillir des fonds. Des membres du comité de sous-aide sont donateurs. Et puis, un de mes rôles, c'est d'aller en chercher d'autres, c'est-à-dire de trouver des fonds et de faire ce qu'on appelle la levée de fonds pour faire vivre le budget de Human Rights Watch en France. Mais nous avons aussi des gens qui exercent une influence morale importante, comme Robert Badinter, comme un certain nombre de chercheurs, par exemple Françoise Gaspard dans le domaine du droit des femmes, des avocats comme Christopher Mesnou, qui se sont illustrés aussi dans la défense des droits de l'homme, etc. Donc ce comité, à la fois un magistère moral, et aussi un but de réseau de soutien, soit directement, soit à travers les gens sur lesquels il a une influence.
Parlons de la vision des droits de l'homme en France et dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question avance bien, qu'elle évolue d'une belle façon, ou qu'elle régresse, ou qu'elle change tout simplement?
Nous sommes en France, et disons-le pour élargir un tout petit peu, parce que la situation n'est pas très différente ailleurs, chez nos voisins. Nous sommes, disons, en Europe occidentale, dans cette petite péninsule, qui est un havre de prospérité et de paix. Nous sommes dans une situation où évidemment, les questions des droits humains ne se posent pas de manière aiguë, permanente, quotidienne. Ce qui a tendance à nous faire oublier, à passer un petit peu dans l'ombre, le fait que ce combat, cette problématique est absolument intense dans tout le monde entier, enfin dans la plupart des pays du monde. Je vais vous citer 80 pays. Il y a très peu de rapports ou de communiqués de Human Rights Watch sur des problèmes de droits humains en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. C'est évidemment dans les pays où les difficultés, les régimes politiques, les situations de conflit sont beaucoup plus manifestes. Alors, à cet égard, si on regarde cet aspect, si on veut bien regarder par la fenêtre, si on veut bien ouvrir la fenêtre, on se rend compte que la situation des droits de l'homme dans le monde, elle n'est pas du tout réglée, mais elle a même plutôt tendance, malheureusement, à s'aggraver depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes tendances. La première, c'est que le commerce est roi. Et on l'a vu en France, en particulier, si l'on se souvient du premier discours de Nicolas Sarkozy au moment où il a été élu, le jour où il a été élu, le soir où il a été élu, et où il a pris, je m'en souviens très bien, pour la première fois la parole devant les militants de son parti pour les remercier, pour annoncer un petit peu dans quel esprit il allait agir. Il a immédiatement embrayé sur les droits humains avec des paroles vibrantes, avec des intentions fortes qui étaient de prendre ça en compte. Il n'était pas forcé de le faire. Il a choisi de le faire ce jour-là, immédiatement. D'où espoir. Et puis, dans la foulée, on a mis un défenseur traditionnel des droits humains à la tête du ministère des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui s'est illustré en créant Médecins sans frontières, etc. Et on a créé un secrétariat d'État aux droits humains où on a placé une jeune femme pleine d'allant qui a su très vite se faire connaître et se faire comprendre, et qui était Ramayane. Et puis tout ça s'est confronté à la vie quotidienne de rapports diplomatiques avec des pays comme la Libye, comme la Chine, comme l'Algérie.
Pas si simple.
Comme la Russie, la Tchétchénie, etc. Et petit à petit, ceux qui avaient les meilleures intentions se sont rendus compte que ce n'était pas forcément compatible avec la vie d'un gouvernement, les priorités de contrats à signer, évidemment l'importance de marchés considérables comme la Chine, avec lequel on ne pouvait pas être en mauvais termes. Et il en est résulté qu'on a mis un petit peu une sourdine sur tout ça. On a supprimé le secrétariat d'État aux droits humains et on ne soulève plus la question. Bon, ça, c'est la vie telle qu'elle est. Donc, le rôle de Human Rights Watch, en l'occurrence, c'est d'être le poil à gratter. C'est de rappeler en permanence que ces problèmes se posent. Et d'ailleurs, on ne nous ferme pas du tout la porte au niveau du gouvernement. On nous écoute, on en discute. Mais quelquefois, on lève les bras au ciel en disant « oui, vous avez bien raison, mais... vous comprenez, c'est pas facile tout ça. » Bon, donc il y a le problème du commerce. Et puis il y a une deuxième menace, alors forte et permanente, sur les droits humains, qui est celle d'idéologies complètement différentes. Et par exemple, dans une grande partie des pays musulmans, qui sont en même temps pour la plupart d'entre eux des autocraties, des pays non démocratiques dans leur mode de fonctionnement ou d'élection, ou pas d'élection du tout, les droits humains sont réglés par la charia. C'est-à-dire qu'on considère que le nec plus ultra en matière de droits humains, c'est ce qui est dicté par le Coran, par la charia. Et évidemment, c'est très difficile de mettre ça en équation et en rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a maintenant 60 ans et 6 mois, même presque 61 ans d'ailleurs, et qui était, juste après la guerre, un espoir considérable de voir cette idéologie et ces grands principes s'étendre à toute la planète. Eh bien, pour le moment, il y a une grande partie de la planète qui les combat. Ou alors vous avez les Chinois qui disent « mais nous sommes pour les droits de l'homme, nous en sommes absolument convaincus, et pour nous, les droits de l'homme, c'est d'abord le niveau de prospérité économique et les droits sociaux ». Alors, la liberté d'information, la liberté d'expression politique, la contestation n'ont pas été mentionnées. On a ou un pays défini ce qu'est sa conception des droits de l'homme et elle est souvent très restreinte, ou d'autres attaquent systématiquement les notions de droits humains en disant « ça, c'est une invention de l'Occident pour nous compliquer l'existence et pour essayer de nous déconsidérer ». Donc, nous ne rentrons pas dans ce jeu. Nous savons ce que c'est que les droits humains. C'est la charia. Ça fait beaucoup de monde. Et derrière tout ça, en particulier dans les pays d'obédience musulmane, ce qui est le plus frappant, c'est justement le maintien en tutelle des femmes, d'une manière ou d'une autre, avec quelquefois des traitements atroces et quelquefois simplement le fait qu'elles sont dans une position minorée dans la société. Et autour de ce problème central, qui est la manière dont on conçoit la liberté pour les femmes dans une société, c'est un des principaux points de clivage entre les sociétés occidentales un peu laïcisées, même si elles ont beaucoup encore de religion dans leur esprit, mais uniquement dans leur esprit, pas dans leurs institutions. Il y a des pays maintenant qui ont des tendances, sinon totalement, du moins partiellement théocratiques. Donc, cette situation-là, elle s'est développée d'une manière tout à fait préoccupante dans les 10 dernières années. Et c'est pour ça que plus que jamais, il y a besoin de rappeler de manière inlassable et par les faits, pas simplement au niveau des principes, en disant aujourd'hui, il s'est passé ceci, la semaine dernière, il s'est passé cela, la menace qui se précise dans telle ou telle région du monde, elle est celle-ci. Prenons un exemple. Au Sri Lanka, c'est loin le Sri Lanka, mais on en a quand même un peu parlé à un moment donné. Au Sri Lanka, le gouvernement a finalement, après 25 ans de guerre, obtenu une victoire sur les rebelles séparatistes qui occupaient le nord de l'île. Eh bien, le dernier bastion a représenté une région où il y avait 250 000 personnes. Les rebelles eux-mêmes ont mis ces 250 000 personnes plus ou moins dans des camps et contre leur gré, parce qu'ils voulaient contrôler la situation. Puis ils ont été vaincus. Le gouvernement du Sri Lanka les a maintenus dans cette situation parce qu'il avait peur que s'y cachent de nombreux rebelles au milieu de cette population et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de les relâcher dans la nature. Moyennant quoi, depuis maintenant près d'un an, ces gens-là sont dans une situation épouvantable, vivent dans des camps sans aucun droit à rien, pas d'inspection de la Croix-Rouge, pas d'accès possible pour Human Rights Watch pour y aller. Et ce que nous savons, puisqu'on a quand même des informations qui filtrent, c'est que c'est une situation intolérable. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans un coin du monde relativement restreint. Ça concerne quand même 250 000 personnes. Et des choses comme ça, il y en a partout.
Vous gardez espoir sur le fait que les droits humains dépasseront les questions de commerce, de relations d'intérêt?
Ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question d'intensité de l'effort. Les humains sont quand même, bon, sont ce qu'ils sont. Et c'est-à-dire qu'ils ont à la fois un vif sens de leur intérêt et en même temps, inévitablement quand même, sauf pour quelques-uns d'entre eux, peu nombreux, des vagues principes humains à l'intérieur d'eux-mêmes. Et chacun d'entre nous est habité par cette tension dont il établit la part selon, en final, son tempérament et son histoire. Nous pensons donc qu'il faut faire appel en permanence, quel que soit le pays, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la situation, il faut faire appel à la part d'humanité qui existe encore à l'intérieur de chacun. C'est peut-être une vision optimiste, mais elle n'est pas totalement démentie par les faits au cours de l'histoire. Sinon, le monde serait resté un enfer épouvantable. Et ce n'est pas le cas. Il y a des progrès. Bon, donc c'est bien fondé sur le fait que cette capacité au progrès est quelque chose d'abordable et qui résulte de l'action d'un certain nombre de gens. Nous sommes là pour rappeler ces gens en permanence à l'essentiel et surtout leur fournir des exemples et des arguments. Encore une fois, ce n'est pas des grands principes, ce sont des petites constatations, mais des petites constatations concrètes, quotidiennes et absolument à l'échelle géographique de l'ensemble de la planète. Il faut le faire. Il ne s'agit pas seulement d'être sûr que ça réglera la question. Encore une fois, pour moi, la question des droits humains ne sera jamais réglée. C'est un travail en permanence. Si vous voulez, c'est comme la nourriture. Vous avez une famille, vous ne dites pas « je vais régler le problème de son alimentation une fois pour toutes ». C'est tous les jours. Et ça sera tous les jours, quoi qu'il arrive. Et quand vous avez des enfants, il y en a pour 25 ans. Et encore, quelquefois beaucoup plus maintenant. Bon, donc, c'est quelque chose qui fait partie d'un service permanent qui doit être réalisé. Et vous savez, nous rendons service à des gens de manière étonnante. Par exemple, j'étais à Shanghai il y a quelques jours et je parlais avec des défenseurs des droits de l'homme là-bas, il y en a, et ils peuvent s'exprimer. Évidemment, ils n'ont pas la même tribune qu'ils pourraient avoir ici, mais on peut avoir accès à eux. Ce n'est pas dans des couloirs sombres. Bon. Il y en avait qui me disaient, mais vous savez, le gouvernement chinois conteste vos analyses, réfute beaucoup des dénonciations qui sont faites parce qu'il y a de quoi faire en Chine par rapport aux droits humains. Mais en même temps, il vous tolère, parce qu'ils auraient pu interdire d'accès nos chercheurs qui viennent, qui se promènent, qui sont connus, tout est repéré en Chine. On sait très bien qui fait quoi et à quel moment, c'est très organisé. Mais ils vous tolèrent aussi parce qu'ils ont besoin, eux aussi, de votre information. Ah bon ? Comment ça se fait ? Eh bien, parce que c'est un immense pays, on ne gère pas plus d'un milliard d'habitants d'une manière facile et organisée. Il y a des régions, et les régions ont tendance, chacune, à cacher au gouvernement central ce qui se passe vraiment et expliquer que tout va bien. Eh bien, quand vous dites, voilà, au Xinjiang, il se passe ça, le gouvernement prend ça au sérieux parce qu'il s'aperçoit qu'effectivement, on ne lui avait pas dit ça de la part des autorités locales. De la même manière, pourquoi est-ce que le gouvernement français, le Quai d'Orsay, l'Élysée, apprécient nos analyses et qu'on vienne lui rappeler les choses? Parce qu'ils ne font qu'une confiance partielle au réseau diplomatique français, car les diplomates, par définition, sont obligés de faire la part des choses, de garder de bons contacts avec les autorités locales et autres. Il faut une voix totalement indépendante et crédible et dont la qualité de l'information soit prouvée. Donc, c'est un travail qui a une raison d'être, même dans la mesure où cette fonction n'est pas remplie autrement, où elle est remplie de manière tout à fait insuffisante. Et puis la nôtre, Dieu sait qu'elle pourrait être mieux remplie, mais enfin, nous faisons notre mieux. On fait ça avec moins de 300 personnes sur le monde entier. Eh bien, il y a beaucoup plus de monde que ça dans n'importe quelle agence d'information. Et nous sommes obligés de fonctionner comme ça, mais c'est ça la foi, c'est ça le fait d'avoir un idéal. Ce sont des gens qui sont prêts à faire des efforts considérables pour ça.
En dehors de vos fonctions de président de comité de soutien, vous êtes également membre du comité international
plus d'un an. Du board, c'est-à-dire du conseil d'administration international. Oui, c'est ça.
Comment vous appréhendez cette mission? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous allez à New York, aux États-Unis, siéger?
Ou ailleurs d'ailleurs, puisque nous venons le tenir à New Delhi, ça se fait de temps en temps dans d'autres pays. Ben, c'est indispensable d'avoir un contact justement à l'échelon mondial. Sinon, nous resterions à l'échelle française, qui est minuscule, hein, intéressante, mais minuscule. Et là, on échange de manière transversale, on se rend compte de tout ce qu'il y a de commun dans notre démarche selon les différents pays. On se rend compte des besoins de soutien que nous pouvons mobiliser partout. On s'échange d'ailleurs des informations. Et par exemple, on nous dit, mais tiens, moi je connais telle personne qui habite Paris, moi je suis de Londres et je peux lui dire un mot pour qu'elle vienne vous aider d'une manière ou d'une autre et vous soutenir financièrement. Donc nous avons besoin de ça. Et c'est très riche. Je veux dire que c'est tout à fait intéressant parce que j'ai travaillé toute ma vie comme patron de presse, c'est-à-dire quand même dans un secteur privé avec un compte d'exploitation. Alors, les comptes d'exploitation, il y en a aussi, Dieu sait, à Human Rights Watch, c'est-à-dire recettes et dépenses. Mais la grosse différence, c'est que personne n'est là pour gagner de l'argent. Tous ceux qui sont là, ils sont plutôt là pour en donner que pour en recevoir, sauf les salariés pour lesquels il faut trouver les fonds pour les payer. Et donc, il y a une atmosphère totalement différente. Il n'y a pas de compétition entre les gens. Ce sont des gens de bon niveau, avec des idéaux et qui échangent en toute liberté parce qu'ils ont un même objectif qui est cette défense et cette dénonciation des exactions à l'égard des humains. Et donc, ça, c'est très, comment dirais-je, c'est très tonique par rapport à l'atmosphère qui règne dans le système privé. Je sais que je ne suis pas contre le système privé et c'est grâce aussi au système privé que nous avons des médias et des journaux qui vivent, mais c'est une bouffée d'air frais supplémentaire.
Pour vous qui êtes un homme de presse, les droits de l'homme, les droits humains, c'était une vocation dès le départ, vous avez l'âme philanthrope?
Vous savez, il ne faut pas se vanter de ce genre de choses parce qu'il y a toujours tellement plus à faire qu'on a la capacité, le courage de le faire.
On vous sent très engagé dans cette question.
Je crois que ce n'est pas trop difficile d'être engagé dans ces questions quand on a passé sa vie à suivre l'information dans son pays et dans le monde et qu'on a accumulé des observations qui sont évidemment en partie optimistes mais très souvent un peu désabusées. Et quand on arrive à un moment et à un âge où on peut se consacrer entièrement, dans une certaine mesure, à restituer par l'action et par ce que l'on fait, une partie des grands avantages que nous a donné la naissance, dont le fait d'être né en France, dont le fait d'être né dans des familles où on pouvait vous donner de l'éducation, dans le fait d'avoir pu agir et faire fonctionner les entreprises de presse en toute liberté. Ce sont des choses qui nous ont paru évidentes toute notre vie. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Elles relèvent de privilèges. C'est un privilège d'avoir vécu comme ça. Eh bien, de pouvoir se dire que là, d'une certaine manière, on peut redonner ce que l'on a reçu en partie, ça me paraît tout simplement naturel. Eh bien, disons que chacun cherche du sens à sa vie à sa manière. Ça joue ce rôle. Donc, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est à mon bénéfice personnel. Le sens est essentiel, nous en avons besoin tous les jours.
Merci Jean-Louis Servan-Schreiber d'être venu nous parler de Human Rights Watch en France et dans le monde, de votre vision également des droits humains. Je rappelle que vous êtes le président du comité de soutien de cette organisation en France et également membre du Conseil international du Board qui se réunit aux États-Unis à New York. Merci à tous, vous pouvez retrouver cette émission sur canalacademy.com.